c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Radio Dune, la radio du bassin d'Arcachon avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Vue d'ici. Volets battants, coulissants ou persiennes innovants, fabriqués en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez votre boutique Langélis, 3 places du Parlement à Bordeaux.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 16h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute en écoute la télé et l'hebdo sur Radio Dune, votre radio sur le bassin d'Arcachon. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro inédit de Chute, on écoute la télé, on va parler de Parallèle. La série vient d'être mise en ligne sur Disney+. Dans un instant, Cook Dantran et Thomas Chomel seront nos invités pour parler de cette nouvelle série. Et puis on aura le plaisir de consacrer également une large partie de cette émission à la fiction Elle m'a sauvé, qui sera diffusée demain soir sur M6, qui se mobilise pour les femmes battues. À l'occasion, eh bien, Lio, Yonut Teyanou, Clément Manuel et Laura Sepul seront nos invités exceptionnel pour débattre sur le sujet. Et puis nous aurons également le plaisir de recevoir, et là c'est le revenge porn qui est à l'honneur mercredi sur France 2 avec une soirée spéciale. Guillaume Bernard, le producteur, Didier Bivel, le réalisateur et Julie Debona seront nos invités exceptionnels pour Mise à Nu qui sera diffusée mercredi. Et puis en fin d'émission, on lancera un appel au casting avec Olivier Casas, le réalisateur de Babyphone prépare un nouveau projet, recherche deux enfants activement pour son prochain film. On vous dit tout en fin d'émission.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on démarre tout de suite notre spécial Parallèle. La série vient d'être mise en ligne sur Disney+, deuxième création de Disney+, après Weekend Family. Et on est justement avec le créateur de la série, Cook Dantran, qui est avec nous. Bonjour Cook.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous avoir. C'est une série que j'ai adorée. Moi, personnellement, j'ai pu voir un petit peu avant tout le monde. Et je dois avouer que j'ai été subjugué par l'univers poétique de fantasy qui règne un peu à la manière des Revenants ou de La Dernière Vie de Simon, qui pour moi, voilà, était vraiment des fictions réussies. Et là, on s'inscrit bien dans la lignée, justement, du voyage un peu dans le temps et du fantastique réussi. Donc, merci déjà, Cook, pour ces bons moments que d'une de nos spectateurs vont passer en regardant cette série sur Disney+, et que moi j'ai pu passer en le voyant avant tout le monde. Donc merci, mais comment est né ce projet, Cook? Racontez-nous un peu.
Il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai déménagé au pied du Jura à la frontière franco-suisse, et dans le village, j'entendais parler anglais, japonais, russe, allemand, espagnol, et je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'était vraiment un petit village d'à peu près 4000 habitants. Et en fait, j'ai compris, on m'a expliqué plutôt que ces gens étaient des ingénieurs, des doctorants en physique des particules et qui travaillaient au CERN, qui se trouvaient à quelques kilomètres de là. Et en fait, c'est là qu'on m'a expliqué que sous nos pieds, il y avait un gigantesque accélérateur de particules. C'est un anneau en métal qui fait 27 kilomètres de circonférence, enterré à 100 mètres sous terre, et que l'objectif de cet accélérateur de particules était de recréer les conditions du Big Bang pour comprendre les origines de l'univers. Donc moi, j'amenais mes enfants à l'école et du coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, il y a une histoire à raconter.
Ah oui, cette histoire qui, justement, voilà, au cours, on va dire, d'une expérience un peu électrique qui tourne pas très bien, mais quatre jeunes gens vont se retrouver diffusés dans deux mondes parallèles et vont devoir composer d'une avec. Vont-ils se retrouver? Vont-ils justement, comment vont-ils appréhender tout ça? C'est ce qu'on va découvrir à travers ces quatre destins, ces quatre jeunes gens joués par Thomas Chomel, qui va nous rejoindre d'ailleurs dans quelques instants, et le tout enquêté par Guillaume Labbé, d'ailleurs qu'on recevra aussi la semaine prochaine pour nous en parler. Comment vous avez choisi vos quatre héros?
Alors, c'était un processus de casting normal, mais c'était très important pour nous. Alors, les héros de l'histoire sont des adolescents, donc il fallait vraiment qu'on trouve des adolescents, des jeunes adultes, qu'on puisse voir à l'écran et on ne se pose jamais la question de savoir s'ils sont vraiment amis. Donc, il a fallu qu'on cherche une sorte d'alchimie entre comédiens, et on l'a trouvé, et ça, c'était génial. Et il y a aussi, évidemment, des rôles d'adultes, Et pour ça, il fallait vraiment, j'avais vraiment une idée précise de ce que j'attendais de ces personnages. Et Guillaume, notamment, et Thomas, évidemment, ont incarné parfaitement ces personnages.
Alors moi, ce que j'ai trouvé bluffant, c'est les rôles de Roman, de Victor, quand on les voit voilà à 14 ans et qu'on les voit après à 18 ans, parce qu'il y a un bond de 4 ans dans un monde parallèle, c'est bluffant, la ressemblance, mais on y croit à fond, quoi. Et ça, c'est vraiment, le casting est d'une réussite totale. Hein.
Ah bah merci beaucoup, c'était évidemment essentiel pour que la série fonctionne. Donc oui, ça a été un processus qui a été un peu long, long parce qu'il fallait qu'on trouve les bonnes personnes et on les a trouvées et derrière ça on s'est engagé dans la course contre la montre parce que on a tourné en pleine période de Covid donc c'était évidemment très compliqué.
Mais oui, j'imagine bien, mais il fallait trouver vraiment des comédiens ressemblants parce qu'à bon 4 ans, c'est pas beaucoup à la fois. Donc il fallait vraiment trouver des comédiens qui puissent incarner 4 ans plus tard sans qu'on se déconnecte d'eux quoi à dos à la fois.
Oui, absolument. Absolument.
Quelles ont été les difficultés de tournage justement? Est-ce qu'en montagne il y a des difficultés particulières parce qu'il y a plein de scènes où il y a de la neige, où il y a voilà, est-ce que ça, le froid crée des fois aussi des tensions?
Alors un tournage c'est toujours une sorte de traversée avec des événements imprévus, c'est le principe des tournages parce qu'effectivement la météo peut ne pas être au rendez-vous. On écrit une scène où normalement il fait beau et ce jour-là il y a une tempête, ce jour-là il y a de la neige, ce jour-là. Et parfois, on a besoin de neige et il n'y en a pas, puisque un tournage, ça s'étale sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, évidemment, on est tributaire des éléments météorologiques, mais pas que. Donc, effectivement, et en plus, on rajoute cet élément qui était le Covid, où il fallait faire attention à tout et être très précautionneux. Et donc, ça a été vraiment de la dentelle. Il a fallu faire très attention tout le temps.
Un casting incroyable, Nedra Yadi, Jules Houplin, Thomas Chomel qu'on va recevoir dans un instant, Guillaume Labbé, il y a plein de beaux mondes aussi, et puis j'imagine aussi l'engouement quand on tourne une série pour un groupe comme Disney, ça doit être aussi quand même une certaine joie.
Alors Disney, alors si on dit qu'aujourd'hui Disney c'est aussi bien Star Wars, Marvel, Pixar et évidemment Disney, moi... Ça a été ma meilleure nounou, en fait. Disney m'a vu grandir. Et même aujourd'hui, je regarde encore tout ce qui sort de Disney. Et donc, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et en plus, ce qui est très important, c'est que c'est une série fantastique française. Et il n'y en a pas tant. Pendant très longtemps, cet espace de l'imaginaire a été occupé par les Américains. Et du coup, on se sentait pas forcément légitime pour écrire dans le genre fantastique. Et donc, malgré tout, voilà, aujourd'hui, il faut qu'on ouvre plus grand la porte pour que cet espace de l'imaginaire, on puisse le réapproprier, tout simplement.
Ouais, et puis c'est un fantasme quand même, le voyage dans le temps. C'est un des plus grands fantasmes de l'humanité, justement, aussi.
Absolument, mais pendant longtemps, ces histoires ne pouvaient presque être racontées que par des Américains. Et aujourd'hui, voilà, on nous donne, et Disney France nous donne l'opportunité de justement raconter une de ces histoires, parce qu'en fait, il peut y en avoir une variété infinie d'histoires sur les mondes parallèles, sur le voyage dans le temps, sur le... Donc c'était vraiment très important que Disney nous suive et ils ont été formidables tout le long.
Dernière question, Cook, juste avant d'accueillir Thomas Chomel et d'écouter la bande-annonce. Est-ce qu'une deuxième saison est déjà sur les rangs? Est-ce qu'on peut espérer avoir une suite à ces 6 fois 35 minutes qu'on peut déjà voir sur Disney+?
Alors on est en train d'y réfléchir parce que on ne se lancera que si on trouve vraiment la bonne idée. On ne fait pas une deuxième saison pour faire une deuxième saison. Donc, si on trouve vraiment le bon concept, on se lancera. Sinon, voilà. C'est, en tout cas, la saison 1 est une formidable aventure. Et voilà, on est en train de réfléchir à la suite. Et voilà, on espère être touché par la grâce à un moment donné.
Ben moi, je vous conseille en tout cas voilà, de suivre le destin de nos 4 personnages, Roman, Bilal, Victor et Samuel, incarnés par Thomas Chomel, qu'on va recevoir dans un instant. Vous allez être, voilà, j'espère, conquis. Nous, on l'a été. Parallèle, c'est maintenant sur Disney+. On va écouter la bande-annonce. Merci, Cook, d'avoir été avec nous.
Merci à vous, merci beaucoup.
Et à très bientôt. Et Thomas Chomel arrive dans une minute, juste après la bande-annonce.
Roman, Bilal, Victor.
Pendant ces 5 secondes, Roman, Bilal et Victor ont disparu. Ce type est apparu à leur place, c'est ça?
C'est comme s'il s'était évaporé.
Maman, c'est Bilal.
C'est une taille différente, mais c'est la même empreinte.
Oh. Si je voyageais dans le temps, ça veut dire que Roman et Victor aussi.
Lui, c'est Victor et moi, c'est Roman.
Vous vous souvenez du triangle des Bermudes?
Non.
Bof.
Ouais.
Bon.
Allez, on continue à parler de Parallèle, votre nouvelle série Disney+, qui est en ligne depuis jeudi dernier. Et on a l'occasion d'avoir Thomas Chomel, l'un des quatre héros de cette fiction, qui est avec nous. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Thomas, qu'on retrouvera aussi ce soir dans le lancement de cette 12e saison de Clem. Thomas, on va commencer par parler de Parallèle, bien sûr. Alors moi, j'ai eu l'occasion de voir les épisodes avant tout le monde. Franchement, j'ai été bluffé par cette série. Déjà parce que j'ai trouvé, moi j'aime bien tout ce qui mélange un peu du futur, des voyages dans le temps. Quand toi, tu as lu le scénario de Parallèle, comment t'as réagi? Qu'est-ce que tu t'es dit?
Ah bah déjà, j'étais hyper content. Disney Plus, et moi j'ai toujours fan de Disney, donc déjà ça j'étais ravi. Et ensuite, dès que j'ai lu le scénario, j'étais encore plus. Au début c'était toujours un peu compliqué, parce que quand on parle de voyage dans le temps, dans un scénario et de monde parallèle à lire, c'est un peu compliqué au début, parce qu'il faut bien mettre les choses en place dans sa tête. Mais une fois qu'on a bien tout lu et qu'on a bien tout compris, c'est extraordinaire, surtout avec un scénario pareil qui est au top.
Ah, il y a une réalisation hyper soignée, on bascule. Alors tu y incarnes Samuel, pour ta part.
Exactement.
Voilà, l'un des quatre héros où justement, au début, l'histoire de départ, c'est vous rassemblez tous les quatre, et puis il y a un événement qui se passe à un moment donné qui va faire que deux groupes de deux qui sont envoyés dans deux mondes parallèles différents, et puis on va voir évidemment tout au long de l'histoire comment ils vont peut-être finir par s'en trouver ou pas, en tout cas comment ils vont évoluer dans ces deux mondes parallèles. Et toi, la petite particularité, c'est que dans ces deux mondes parallèles, enfin tu ne bouges pas. Alors qu'on va retrouver certains autres protagonistes qui vont avoir avancé dans l'âge du temps, en fait.
Exactement, ouais, c'est ça. Et non, moi je reste le même. Et en fait, ce que je trouve pas mal, parce que ça permet d'avoir un peu un point d'ancrage au monde qui est le leur, en fait, ça permet de garder un peu les yeux sur ce qui se passe réellement.
Il est assez rare que le fantastique, comme ça, la poésie fantastique, soit traitée justement à l'écran. Il y a très peu de fiction. On a vu Les Revenants sur Canal+. Il y a eu ce merveilleux film de Léo Carman, La dernière vie de Simon, qui était vraiment une fantaisie à l'épreuve du temps. Et il est vrai que c'est assez rare justement que ça soit traité. Donc bravo à Disney, parce que c'est la deuxième fiction Disney+.
Ouais. Bravo à Cook aussi, qui est le créateur de la série, qui a vraiment fait un travail
qui était avec nous il y a quelques instants. Quel souvenir tu garderas du tournage et de ces paysages grandioses dans lesquels vous avez tourné quand même, dans ces montagnes?
Ah ouais, complètement. Donc déjà il y a les paysages, il y a les conditions de tournage aussi qui étaient c'était magnifique. On tournait en montagne sous moins 7 degrés, donc par moments c'était un peu compliqué, mais c'est incroyable, surtout à la caméra, ça rendait extraordinairement bien.
Quel souvenir tu garderas, toi, près d'une scène précise? Est-ce qu'il y a une scène particulière aussi qui restera pour toi?
Alors, s'il y a une scène que je garde bien en tête, mais en fait, ce serait la scène du coup où je suis avec Nedra. C'est une scène où on arrive devant le bunker. C'est hyper dur parce qu'à cause du froid, j'avais les lèvres qui étaient paralysées, j'avais un peu de mal à parler. Mais en tout cas, le résultat est fou parce que du coup, ça fait très vrai. C'est vrai en fait.
Allez, les décors sont hyper bien soignés. Enfin, vraiment, ouais, je vous conseille cette deuxième fiction Made in Disney+. 6 fois 35 minutes. En plus, on est dans un format totalement novateur et inédit aussi.
Ouais.
Et donc, ça vient de sortir en ligne. Il y a les 6 épisodes que vous pouvez déguster sur votre plateforme. Alors, n'hésitez pas. En tout cas, on va dire un petit mot aussi sur Clem, évidemment, qui fait son grand retour ce soir, où tu y joues maintenant depuis 3 saisons le rôle de Valentin, aux côtés de Lucie Lucas. Là aussi, je sais que c'est une série que tu aimes beaucoup et un personnage que tu aimes beaucoup.
Ah ouais, j'y suis carrément attaché. Je suis attaché aussi à toute l'équipe de tournage de Clem qui m'ont réservé le meilleur accueil quand je suis arrivé et soutiennent depuis le début, qui sont là pour moi. Et ça je pourrais pas louper.
Et puis il va y avoir encore son lot de surprises pour cette 12e saison, je crois, parce que
ouais,
vraiment c'est le but, c'est que chaque saison se renouvelle et on retrouve évidemment un lot de surprises et de rebondissements pour tous nos héros.
Complètement. Et j'ai pas envie d'en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler les gens, mais le public, Ça monte très très bien.
Et puis la découverte en plus, elle est ce soir. On va découvrir les deux premiers épisodes.
Ouais,
en tout cas, Thomas, on va te souhaiter plein de belles choses. Toi qui avais joué aussi dans cette super série qui s'appelle Mirage, est-ce que tu as d'autres projets pour la suite? Est-ce qu'on va te voir dans d'autres choses en 2022?
Alors pour l'instant, je ne parle pas.
Ah, superstitieux.
Et voilà, je préfère rien dire.
Oui, attendre que tout soit sûr.
Dire ou pas dire. Voilà, exactement.
Bon, bah écoute, ça sera l'occasion pour toi de revenir nous en parler, de revenir nous voir très vite dans Chute on écoute la télé en tout cas. Merci beaucoup Thomas.
Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.
Et à très vite.
Je mets ça où ?
Eh ben, dans la cuisine.
Je mets ça où ?
Dans la chambre d'Isia.
Et ça, ça va où ?
Dans la chambre Clem et Matt.
C'est un rituel amérindien pour protéger et purifier.
Très bien.
Là, j'ai envie de croquer la vie. J'ai pris conscience de pas mal de choses. J'ai montré mon côté sauvage.
Vous avez la plus mauvaise note, je peux peut-être vous donner des cours particuliers.
Je sens un truc de bizarre.
Tu me prends pour une idiote ?
Oui, je devrais.
Eh ben, va respirer dehors.
Mon bateau ?
Ma fille est une voleuse !
Qu'est-ce que t'as fait ?
Jérôme ? Mais qu'est-ce que tu fais là ?
Je suis venu pour voir ma fille.
Inédit. Clem revient pour une nouvelle saison, lundi à 21h10 sur TF1.
Allez, notre spécial Elle m'a sauvé est également mise à nu. C'est dans quelques instants, surtout bougez pas. Dans un instant, Lio, Julie Debona, Laura Sépul, Clément Manuel nous rejoignent dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite.
Suavemente, bésame, je sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, bésame, sors de la descente, moteur italien.
Suavemente, j'ai traversé la mer. J'oublie pas ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère.
Quitter la galère, haraga dans les rues de Palerme. Une petite italienne qui m'aime et qui me fait les papels. Oh bébé, t'es douce, maman, comment t'es suave.
Suavemente, bésame. Je sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, bésame. Je sors de la baisse en moteur italien. Je fais la fête, j'écoute pas les ragots. Je suis à Monaco, le poteau fume la gelato. Si pronto, elle est belle, elle veut une photo. Je l'emmène à Phuket et on se balade en moto.
En Madrid, mia, je vais y arriver.
Suavemente, bésame. Je sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, bésame. Je sors de la baisse en moteur italien.
Je fais de l'or, maintenant je fais de l'or. J'ai quitté la rue discret comme Manu de Coq. Je fais de l'or, bébé je fais de l'or. J'ai quitté la rue discret comme Manu de Coq.
Suavemente, bésame. Je sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, bésame. Je sors de la baisse en moteur italien.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré au téléfilm Elle m'a sauvé qui va être diffusé cette semaine sur M6. Un véritable téléfilm engagé comme c'est si bien les faire M6 en ce moment. Et on peut saluer déjà la chaîne pour ce pari audacieux. Un téléfilm consacré au féminicide, un sujet d'actualité. Malheureusement, ça ne devrait pas l'être. On va quand même le souligner. Avec Yonut Teyanou qui est avec nous, le réalisateur de ce très beau film. Bonjour Yonut.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Lio, qui est avec nous également, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous. Bonjour Lio.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il y a Juliette Roudet au casting. On va retrouver Laura Sépul et Clément Manuel d'ici quelques instants aussi pour en parler. Yonut, quand on a un sujet comme ça qui nous tombe dessus quand on est réalisateur, quelle est la première chose qu'on se dit ?
Le sujet ne m'est pas tombé dessus. Je cherchais à faire ce sujet. Ce que je voulais faire dès le départ, c'était faire un film militant, mais qui s'adresse pas à des militants. Je voulais faire un film militant qui s'adresse à tout le monde. Donc, on a commencé à chercher des histoires représentatives de ces violences qui sont si fréquentes. Et on s'est arrêté donc sur deux histoires, sur l'histoire de Laura Rapp, et puis sur l'histoire de Julie Douib, qui elle a été tuée par son compagnon. À partir de là, en discutant avec les familles, j'ai essayé de trouver les éléments en commun de toutes ces histoires. Parce que le but n'était pas de faire un biopic de Laura Rapp ou de Julie Douib. Le but était de faire un film dans lequel l'histoire sont emblématiques, qu'on raconte une histoire dans laquelle on retrouve ces mêmes éléments qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent pour chaque féminicide. Donc, j'ai travaillé d'abord avec les familles et avec Laura Rapp. Et puis après, j'ai essayé de m'éloigner un peu de la réalité pour construire une histoire dans une dramaturgie de fiction.
Alors, ce qui est assez dingue, c'est qu'il a fallu quand même des histoires comme ça pour créer un mouvement, pour que les politiques s'intéressent. Mais c'est dramatique d'être obligé d'en arriver là pour arriver à ce que les politiques, enfin, prennent le problème à bras-le-corps en quelque sorte.
D'en arriver où? Parce que moi, j'y suis pas encore arrivée. Je les vois pas prendre, là, hein, le problème à bras-le-corps. Et ça, je tiens à le dire. Si des films comme celui de Yonout sont si importants, et vraiment, je suis tout à fait d'accord avec comment tu dis que tu as fait ce travail. Je trouve que c'est ce qu'on voit dans le film, qui sont vraiment des uppercuts, parce qu'ils s'adressent à tous ceux qui ne se connaissent pas encore dans ce sujet, qui est partout, qui est intolérable. Parce que si c'est vrai que chaque homme n'est pas un violeur, chaque femme a peur de sortir seule la nuit. C'est ça l'histoire. Moi, vous voyez, je fais homme et femme, j'ai 6 enfants, 2 garçons, 4 filles. J'aime les hommes, clairement, je sais pas. Mais à un moment donné, on se dit, est-ce que il faut faire quoi pour qu'on prenne réellement au sérieux comme un fait de société intolérable les violences faites à l'encontre des femmes, et je dis des enfants, parce que je trouve que c'est ensemble, les femmes et les enfants d'abord, mais pas pour se sauver, pour être abîmés.
C'est automatiquement, quand il y a des enfants, ils trinquent avec, hein. C'est toute la famille qui trinque, l'entourage, tout. Tout le monde trinque.
Oui, et puis on voulait montrer vraiment ce qui se passe une fois que la porte est fermée. On a eu ce désir très vite dans l'écriture du projet. On voulait montrer les violences telles qu'elles nous ont été racontées. Parce que ce sont des violences qui sont toujours racontées, on ne les voit jamais en fait. La porte est fermée, il y a la victime qui raconte les violences, il y a en général l'auteur qui les minimise ou les reconnaît selon les cas, mais on ne les voit pas. Et donc le but a été de mettre une image sur ces violences et de voir à quel point c'est insupportable. Alors bien sûr, c'est un film de fiction, il n'y a eu aucune violence réelle sur le plateau, mais le but était d'être assez naturaliste dans la manière de raconter tout ça.
Yo, on y va tout de suite quand il y a un sujet qui nous tombe dessus comme ça quand on est comédienne?
Ah oui, d'abord parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que je pense que de toute façon, l'art porte aussi les sujets de société et qu'il est important, c'est culturel. Et moi, bien sûr, j'y vais parce que déjà, c'est une expérience réelle, c'est quelque chose que je connais bien. Mais surtout parce que Yonout, il m'a appelé pas pour faire une victime, il m'a appelé pour jouer une avocate, Maître Tomassini. Et ça me permet d'être au-dessus et de non pas exprimer ce que j'ai vécu et que je vis toujours comme une énorme violence de la part du système judiciaire et de la société en général, mais apporter le regard de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir, parce que des lois, il y en a, mais est-ce qu'on les applique? Est-ce qu'on les applique comme il faut, avec la précision qu'il faut, la dureté et, comment dire, l'engagement, je crois qu'il faut. Est-ce que ce message est correct? C'est là où tout devient plus problématique, parce que on se rend compte aussi, quand on est du côté des avocats, que l'on doit composer avec un système qui a vite fait de vous disqualifier si vous êtes jugé trop agressif.
Un système qui a vraiment des limites.
Exactement. Et ce que je trouve qui fait bouger les lignes, le film de Yonout, c'est effectivement ça. À partir du moment où on rentre dans l'intime, la partie adverse s'en empare et joue avec ça pour discréditer, puisqu'effectivement, comme la porte est close, il n'y a plus que parole. Alors là, ce qu'a fait Yonout, c'est qu'il a pris les délibérés, il a pris tout, ça a été documenté dans les dossiers de l'avocat, dans les dossiers de l'instruction. Il est parti de là et il a ouvert la porte à l'intime. Il a fait rentrer les gens dans comment ça se passe quand on a ouvert la porte de l'appartement, là où vous êtes jamais allé. Et regardez bien ce qui se passe. Trouvez-vous vraiment que la justice réponde correctement à cette violence? Et là, je crois que tu as posé la bonne question et que on peut imaginer que ça bouge un peu les lignes, oui.
Ça commence tout doucement à bouger. Déjà, on en parle. Il y a des fictions, il y a des gens comme vous, Lio, comme Muriel Robin, comme Odile Wilmain, voilà, qui font bouger les choses. Et c'est des messages, comme Julia Troudé, comme Laura, c'est plus le qu'on va recevoir dans un instant. C'est important qu'on puisse faire bouger Lénine et médiatiser ça le plus possible. Vous avez rencontré des avocates qui ont pu défendre des victimes avec lesquelles vous avez pu converser, échanger.
Ah, mais oui. Alors, le problème, c'est que je m'attendais pas à la question et comme j'ai pas une mémoire forcément photographique, mais vous savez, dès que je suis sortie du tribunal et que le lendemain il y avait un papier dans François, moi j'avais pas cherché ça. Je savais même pas qu'il y avait des mouchards. Mais là, c'est posé la question, qu'est-ce que je fais? Et j'y vais pas. Et vraiment, tout le monde me disait de pas y aller parce que c'est pas du tout glamour. Et moi, j'ai trouvé qu'il fallait y aller parce que c'était un acte citoyen. Et à partir de ce moment, vous pouvez pas savoir, moi je ne connaissais pas les tonnes de lettres qu'on reçoit de femmes qui vous parlent, qui vous disent merci, qui vous racontent des choses pas possibles. Et on prend conscience d'un problème vraiment systémique, vraiment sociétal. Et à partir de là, eh bien, on est dedans. En tant que citoyenne, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Et même si moi, j'ai jamais voulu faire promotion de ça, mais j'ai été partout. Moi, j'ai fait des documentaires, je suis allée dans les commissariats, je suis allée dans les tribunaux, j'ai parlé de ça à des juges, j'ai parlé de ça à des députés, à des sénateurs, j'ai été au colloque d'avocats. Pour qu'on essaye de faire avancer les choses, pour qu'on essaye, par exemple, je peux vous le dire, cette idée que un bon père ne peut pas être celui qui frappe la mère devant son enfant et la tue, c'est moi qui ai poussé ça. C'était, vous savez, quand j'ai fait la couverture de Parents en 2005 ou 4 ou 5, je l'ai fait en demandant qu'on fasse le gros dossier sur les dommages collatéraux des enfants. Personne ne voulait en parler à ce moment-là. Les enfants, ça n'existait pas, mais madame, ne faites pas d'amalgame entre le... C'est incroyable, tu te fais tuer pratiquement devant tes enfants qui en deviennent mi-aveugles, qui ont des problèmes pas possibles derrière. Mais non, non, il faut faire la différence. Et je crois que ce sont des choses comme ça qu'il faut toujours appuyer. J'ai fait partie de ça. J'ai fait partie... aussi à l'UNICEF, des violences contre les femmes. Là aussi, j'ai été très surprise de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui trouvaient que vraiment, je portais trop de mini-jupes pour pouvoir m'occuper de ce dossier et qui ont rendu leur abonnement et tout. Donc tu sais, la violence, même quand on prend parole, elle continue à arriver. De gens qui trouvent que vous n'êtes pas la bonne personne parce que vous avez changé l'air brune, vous avez porté des porte-jartelles. Vous l'avez quelque part aussi bien cherché. Si vous aviez pas été aussi légère. Donc, en fait, ça devient le combat de toute une vie. Parce que nous, on prend perpète. Ça, il faut savoir. Nous, on prend perpète.
Et les jeunes enfants qui sont témoins de ça prennent perpète aussi et encore plus longtemps.
Et encore plus longtemps. Et c'est pour ça que c'est très important de juste rappeler qu'il faut une réelle sévérité quand il y a des exactions telles que celles-là. Et il faut appliquer les peines.
Exemplaire. Younout, merci en tout cas d'avoir fait un sujet comme celui-là, d'avoir pu le porter sur une chaîne voilà comme M6 qui va permettre de le voir en plus en télévision, que ce soit le plus grand nombre qui puisse le voir. On va écouter la bande-annonce et on va se retrouver avec Laura Sépul et Clément Manuel qui a une partition terrible dans ce film alors que voilà, beaucoup de monde le connaît dans le métier, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et voilà, on va en parler avec lui dans un instant comment il a vécu tout ça. Merci Lio, merci Younout.
Merci beaucoup. Merci.
C'est quoi ça?
Bah, c'est du riz.
Du riz? Du riz, du fromage, de la salade, c'est tout, voilà. Nous, on mange ça. C'est pour manger, c'est...
Arrête.
Ça a un nom, ce truc-là?
Arrête.
C'est quoi? C'est de la bouillie, ça?
Arrête, les enfants adorent. C'est quoi le problème?
C'est quoi le problème? T'as rien d'autre à foutre de toute la journée que de faire à manger, et on rentre, et moi, je dois bouffer ça. C'est quoi ça? C'est de la bouillie pour les... C'est pour les cochons?
Arrête.
Tu vois, ça, c'est pour les cochons?
Arrête.
Hein? C'est les cochons, t'es une cochonne, mange ça. Hein? Mange, c'est pour les cochons. Putain, je travaille toute la journée, je suis obligé de me taper ça. Ça a pas de goût, y a pas de sauce, c'est rien, c'est même pas un plat, putain. Tu sais vraiment rien foutre, quoi. Hein? Même faire bouffer, c'est trop te demander. Dégueulasse.
Bah, si t'aimes pas, mange pas.
Je mange pas si j'aime pas! Mais toi, mange! C'est moi qui paye tout ici! Je mange pas si j'aime pas! Regarde ce que tu me fais faire devant les enfants!
Allez, on continue avec notre spécial Elle m'a sauvé. On va continuer à en parler avec Laura Sépul qui est avec nous. Bonjour Laura.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Clément Manuel, qu'on a plaisir à retrouver également. Bonjour Clément.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors là, moi qui te connais un petit peu là, Clément, quand même, un rôle totalement aux antipodes de ce que tu es. Hein. Là, franchement, un rôle dur. Hein.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Dur, c'est le mot. Dur à voir, dur à faire. Mais un sujet très important dans lequel on s'engouffre justement avec plaisir.
Le féminicide aujourd'hui est un sujet de plus en plus d'actualité, on en parle. La parole est en train de se libérer de façon très médiatique aujourd'hui, donc ça c'est une très bonne chose. Déjà, même s'il y a encore beaucoup trop de victimes, et il est très bien que M6 se soit engouffré justement dans ce sujet qui est adapté d'une histoire vraie en plus, hein, celle de Julie Adouib et Laura Rapp. Comment on se prépare à un rôle pareil, Clément ?
Alors, pour ma part, c'était un travail assez particulier dans le sens où j'avais pas vraiment d'informations sur ce personnage, puisque c'est le témoignage de Laura Rapp, qui est la survivante de ce drame, qui évoque son agresseur comme une figure un peu obscure, ombrageuse, quelque chose d'assez difficile à personnifier et ce que je peux comprendre dans un travail psychologique, dans un travail de deuil, il faut le plus possible se protéger. Et donc du coup, j'avais très peu d'informations sur lui et ça a été un travail qui s'est fait avec Yonout Teyenou, le réalisateur, qui a écrit aussi, qui est connu aussi pour avoir réalisé beaucoup d'épisodes de Faites entrer l'accusé, donc c'est quelque chose vraiment qu'il connaît, c'est un sujet qu'il connaît. Et on a vu ensemble des documentaires, des témoignages d'agresseurs qui a accepté de parler à visage découvert, ce qui est très très rare. Et donc du coup, on a articulé la construction du personnage autour de ces témoignages pour avoir quelque chose de vrai, mais qui restait quand même de la fiction. Donc on s'est inspiré de l'histoire de Laura, de ce qu'elle a raconté. Donc il y a des mots qui reviennent, qui sont dans le film, qui sont des mots qui ont vraiment été dits, des choses qui sont vraiment arrivées, parfois même des choses tellement énormes, on se dit mais c'est pas possible. En fait, c'est souvent ce qui apparaît comme étant de la fiction pure, en fait c'est souvent la réalité, c'est vraiment atroce. Donc du coup, ça a été un travail de vraie construction de personnage, d'essayer de trouver la cassure, la fêlure, de se demander comment est-ce que ce mec peut en arriver à faire un truc aussi abominable. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce gars pour arriver à de tels actes ?
C'est vraiment des missions importantes que vous, comédiens, vous faites passer en tout cas, et des messages très très importants. Laura, on va parler de votre rôle en quelques mots.
Au début, moi, j'étais un peu terrifiée, en fait. J'avais très peur de pas y arriver. J'avais très très peur de pas pouvoir rendre hommage à Julie parce que Julie est décédée, voilà. Et j'ai eu la chance que Younout, en fait, toujours me rappelle. On construit un personnage. Il a pris une actrice, moi, qui est très différente physiquement de Julie. Et donc, les conseils qu'il me donnait, c'était laisse-toi submerger par ce que tu es, parce que tu défends comme conviction, laisse-toi faire par l'histoire et amène-toi ce que tu peux pour la rendre vivante maintenant. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec mes petites armes et c'était très 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 fort à jouer quoi. J'ai rencontré les parents de Julie, mais j'avais besoin qu'ils soient d'accord.
Ils ont pu voir les premières images. Quel retour ils vous ont fait ?
Ah ben, je pense qu'ils sont très contents du résultat. Ils nous disent que c'est très en dessous de la réalité. Voilà. Mais c'était pour moi important d'avoir leur accord. Enfin, c'est pas leur accord, le fait qu'ils soient...
Bénédiction, en quelque sorte.
Exactement, c'est le mot. C'est le mot. Voilà. Parce que c'était pas évident à aborder. J'avais tellement de... Je voulais le faire avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect. Voilà. Donc, je me suis vraiment laissée submerger par l'histoire et par mes convictions et... parce que je suis en tant que comédienne, pour essayer de rendre ça le plus juste possible.
Ça doit être dur quand même de se préparer quand on lit le scénario, quand on se documente un peu, se préparer à un rôle comme celui-là, enfin, c'est juste dingue.
Oui, alors on a la chance, enfin, ce qu'on dit toujours, hein, les scènes de violence sont répétées avec des cascadeurs, on a des doublures, mais quand même quand on y est, c'est pas évident. On prend conscience vraiment à partir du moment où on le joue d'un microcentième de ce qu'elle a pu ressentir quand on se fait frapper, quand on... Voilà. Moi, je joue ça, mais cette personne a vraiment vécu ça et elle en est morte, quoi. Donc, avec beaucoup de respect, encore une fois, et d'humilité, c'est d'aborder le rôle comme ça.
Ce qui est bien, c'est que ça a été quand même le déclencheur d'un mouvement qui a abouti à quelque chose de politique. Il a fallu malheureusement encore une fois un drame de plus pour arriver à ce que les politiques s'en mêlent. C'est ça le drame quand même, c'est qu'on soit obligé d'en arriver là, quoi.
Ah oui. Et puis avec Clément aussi, c'est pas la première fois qu'on fait un film sur le sujet. Moi, j'ai fait, on a fait Jacqueline Sauvage ensemble. J'ai fait L'Emprise et puis celui-ci. Donc c'est vraiment un sujet qui est important, quoi. Qui c'est vraiment important que les choses changent et qu'on accepte à un moment donné qu'il faut donner de la prison ferme à ces gens, à ces hommes qui, pour eux, c'est normal de maltraiter une femme, de la frapper, de la maltraiter jusqu'à la tuer, non.
C'est ce qui est bien, c'est quand même que Muriel Robin aujourd'hui et Odile Wilmain sont aussi des figures fortes du mouvement. Et c'est bien que voilà, il y ait leur soutien là-dessus, parce qu'il y a qu'en médiatisant qu'aujourd'hui la parole peut se libérer.
Il est grand temps, parce que ça peut plus durer en fait, pour tout le monde, mais aussi pour les hommes en général. C'est ça moi qui m'intéressait dans ce personnage et dans ce film-là, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe en fait. Comment c'est possible qu'un mec fasse un truc comme ça? Et surtout après, qu'il soit jugé, après ça parle aussi de la justice, quelle est l'efficacité de la justice, comment, ça veut dire quoi rendre justice si les victimes sont considérées comme responsables de leur malheur, enfin leur rap et les parents vont payer encore jusqu'à la fin de leur vie. Elles vont supporter ce poids, cette douleur, et c'est la double peine quoi.
Moi j'en ai vu une partie, avant tout le monde, on bondit de sa chaise quoi. Il y a des choses, mais ça fait juste bondir. Alors quand on les joue en plus, mais j'ose imaginer comment vous avez dû vous préparer. Il y a beaucoup de scènes quand même, difficiles même entre vous, et c'est doit être hyper compliqué à préparer. Moi, j'imagine l'ambiance pesante sur un tournage comme celui-là. Est-ce qu'après, pour décompresser, comment on fait pour sortir le soir après le tournage et pour on va se raconter des blagues, on va essayer de terminer sur une note plus légère.
Bah, il y a des trucs évidemment. Heureusement, l'équipe de tournage était super, très bienveillante, très respectueuse. Chacun était respectueux du travail de chacun. Puis j'aurais pas pu faire ça à moitié. Et d'ailleurs, personne dans le casting, ça se voit. Tout le monde y va à 300%, quitte à se faire du mal, puisque de toute façon, le mal qu'on se fait est minime par rapport au mal que les victimes ont subi. Donc de toute façon, il fallait y aller comme ça, il fallait mouiller sa chemise, et il fallait aussi, c'était très important que l'ambiance soit bonne et que après chaque journée de tournage, on débrief, on en discute, on parle d'autre chose, on boit un coup,
on décompresse.
Oui, et puis il y a surtout, enfin si je peux compléter ce que Clément dit, le fait qu'on est tous impliqués pour défendre cette cause commune.
Vous êtes investi d'une mission carrément quand vous faites un film comme ça.
Et on est, je pense que You nous a pris aussi pour ça. On est d'accord. C'est quelque chose sur lequel on est d'accord. C'est une cause qui nous tient tous très très fort à cœur de le faire. Et à partir du moment où t'es d'accord de le faire, alors tu le fais bien, tu le fais à fond. Ça implique un investissement corporel, ouais, total et mental. Et donc pour l'anecdote des cascades, c'est que les cascadeurs nous conseillaient de faire dissoudre 8 dafalgans dans un bain chaud le soir pour pouvoir continuer le lendemain. Et effectivement, mais après il y a toujours eu tellement de bienveillance de la part de tout le monde. Et pendant les prises, c'était tellement fort qu'on avait besoin de ça. Mais on est une équipe. Il y avait beaucoup d'amour aussi dans ce tournage et beaucoup de nécessité à le faire et beaucoup d'amour pour Julie et pour Laura à raconter cette parole-là. Une nécessité profonde à le faire et ça aide à raconter les choses.
Merci d'avoir été avec nous, en tout cas pour en parler. Elle m'a sauvé cette semaine sur M6. M6 fait des sujets très très forts en ce moment, vraiment, on peut rendre hommage vraiment parce qu'ils osent beaucoup, beaucoup de choses en ce moment, des sujets de société voilà, très forts et engagés. Donc bravo, bravo à la chaîne, bravo à la production et bravo à vous, surtout les comédiens, d'avoir pu retranscrire ces histoires. Merci Clément, merci beaucoup Laura.
Merci.
Merci beaucoup.
Et puis à très bientôt.
Laura, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé?
Vous aviez, madame, la possibilité de déposer plainte, d'en parler à votre entourage. Et vous n'avez rien fait.
Vous vous êtes déjà fait étrangler, maître? Ça dure. C'est long.
Si elle ne s'était pas débattue, si elle n'avait pas crié, Laura serait morte sous les coups de son compagnon.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré au film Mise à nu. Ça sera donc mercredi sur France 2. L'occasion de retrouver Julie Debona dans le rôle titre de Sophie Parlier, qui est de retour avec nous, qui est une sociétaire de l'émission, qu'on aime te recevoir, ma Juju. Comment ça va?
Ça va bien et toi, Alain?
Ça va très très bien. Toujours un grand bonheur de t'avoir à nos côtés. En plus, t'es pas venu toute seule aujourd'hui. T'es venu carrément avec ton réalisateur Didier Bivel, qui est également un habitué de l'émission. Bonjour Didier.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très très bien. Merci d'être là également avec le producteur de chez Adrénaline qui est justement avec nous aussi et qui va nous parler aussi un petit peu du côté production. Du coup, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Guillaume Bernard, producteur de ce film. Alors, Mise à nu, on y retrouve l'histoire d'une femme piégée. C'est un peu une sorte de revenge porn. C'est très à la mode en ce moment, malheureusement. C'est rare que justement des films traitent ce sujet-là.
La primeur à l'auteur, Barbara Grimbert, qui a été associée à Hélène Cohen sur ce projet-là, qui est venue nous présenter le projet et qui était basé sur l'histoire vraie d'une jeune femme qui avait témoigné, qui s'appelle Sophia, et qui avait vécu le même genre de mésaventure. Et donc, évidemment, on a tout de suite été frappé par cette affaire et on s'est dit que c'était un film militant. Il fallait absolument en parler, puisque vous avez raison, le phénomène est de plus en plus naissant en France. C'est très anglo-saxon, c'est beaucoup plus développé aux États-Unis, mais ça commence à arriver en France il y a à peu près 2 ans. Donc, le temps qu'on réunisse un aussi beau casting, que Julie et Didier aient envie de faire le film, et Julien Boisselier évidemment, et on vient maintenant vous le présenter.
Il est impressionnant, hein, Julien Boisselier aussi, on va en parler aussi. Didier, qu'est-ce qui vous a séduit dans l'idée ?
Moi j'avais déjà travaillé avec Adrénaline Productions, donc Guillaume et Charles. Ce qui m'a séduit, c'est déjà eux, ce qui m'a séduit, c'est aussi le projet. Ils font toujours des projets militants, et c'est vrai que c'est des films que j'adore en faire, j'en ai fait quelques-uns.
Donc c'est des films qu'on aime défendre, ça tombe bien.
Voilà, donc il y avait une évidence sur ce projet-là. Et puis après, en plus, me retrouver avec Julie et Julien, c'était la cerise sur le gâteau.
Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite, Julie ?
Moi, en fait, je l'ai reçu il y a assez longtemps, finalement. Aujourd'hui, c'était il y a 1 an et demi. Et c'est vrai que j'avais pas fait de sujet de société. Et j'en avais très envie de m'engager, de faire un sujet de société comme ça. Et donc, c'est aussi...
Ils ont échangé mon enfant, quand même.
Tout à fait, je l'ai fait. Tu m'as fait une belle projo pour ça. Oui, mais c'était un sujet de société qui était pas encore assez connu, enfin, qui était méconnu à l'époque où j'ai reçu le scénario. Du moins, la loi n'était pas passée, les politiques en parlaient pas autant. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'être un peu en amont du sujet. On parle beaucoup de la violence faite aux femmes, du viol, c'est très important. Et là, c'est une autre sorte de viol méconnu, c'est-à-dire qu'en un clic, on peut complètement violer l'image d'une femme ou d'un homme, de quelqu'un, et le détruire son image sociale. C'est aussi violent qu'un viol, et c'est ce que montre le film. Et ça m'a plu de parler de ce sujet-là comme ça, un peu en amont. Et que maintenant, au contraire, c'est en plein dans l'actualité. Donc, je pense qu'on était complètement dans le bon timing, quoi.
Moi, ce que j'aimais, c'est la construction du film, parce qu'on y retrouve donc Sophie, que tu joues, qui commet l'irréparable dès le début du film. Et on repart en arrière pour comprendre, découvrir ce qui s'est passé, pourquoi c'est une femme un peu au bout du rouleau qu'on retrouve dès le début du film. Et on va s'apercevoir, eh bien, qu'elle est tombée amoureuse en quelque sorte du libraire d'en face. Elle est restauratrice. Et puis jusqu'au moment où elle va pas vouloir faire tout ce que veut le libraire, c'est-à-dire exposer leur amour au grand jour, par exemple. Mais il va se venger.
Ouais, on se rend compte à quel point ça fait du mal d'exposer son intimité à son insu. Donc là, en plus, elle voulait protéger ses enfants de cette relation, parce qu'elle n'avait pas encore acté le divorce, même si elle était plus avec son mari. Donc déjà, c'était une position qu'elle avait. Et donc il y a un vrai problème de consentement, donc dont on parle aujourd'hui, consentement du viol de l'image. Et là, on se rend compte que ça détruit sa vie profondément. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été violé, on va dire. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que les gens l'entendent et qu'il faut faire donc très attention pour les gens, les victimes, à ne pas donner leur image comme ça à leur amoureux. Que c'est quelque chose de précieux, c'est une arme en fait, une bombe qu'ils offrent à leur partenaire ou à quelqu'un. Voilà, il y a des jeux amoureux qui sont complètement... c'est acceptable de faire un jeu amoureux, mais c'est le fait de le divulguer qui est un énorme problème. Et donc là, la limite, elle est tellement fragile que le fait d'informer aujourd'hui, au moins que les gens sachent que quand ils jouent à ce jeu amoureux, montrer un sein, montrer, s'expose à un risque que cette image soit divulguée. Alors, ou on assume ce risque-là et à ce moment-là, on est en paix avec ça, ou si on n'est pas d'accord, on peut y réfléchir à 2 fois avant de le faire parce que c'est une arme que tu donnes. Puis après, maintenant, il y a à parler de la personne qui le divulgue. Là, c'est un réel crime aujourd'hui.
Comment on trouve justement le juste milieu dans la réalisation pour montrer justement cette descente aux enfers que vit le personnage et en même temps faire comprendre aux gens que c'est une victime quand même aussi?
C'était tout le challenge de ce film, et sa particularité, c'est-à-dire que il faut filmer l'intime parce que ça ne parle que de ça. Le problème de cette thématique, c'est où est la frontière entre le public et l'intime, et cette frontière, elle a été franchie dans ce film. Un homme utilise tous les moyens pour casser l'image de quelqu'un. Donc ça a été assez compliqué pour nous, parce que c'est pas simple de filmer des scènes d'intime. Donc on a eu un travail en amont avec Julie et Julien. Finalement, c'était assez amusant. On s'est bien marré.
Mais moi, je peux continuer ce que dit Didier, parce qu'il le dira pas, mais c'est vrai que il a eu trouvé la justesse pour moi, pour me mettre en confiance sur la difficulté. C'était, on devait montrer des scènes choquantes, sexuelles. C'est clair, hein, c'était le sujet de notre film, pour abîmer l'image d'une femme. Imagine, tu commences en actrice en disant on va montrer des scènes sexuelles violentes, choquantes, pour abîmer l'image d'une femme. Donc une actrice là-dedans doit porter le sujet, mais Didier me dit je veux pas abîmer ton image, enfin dans le sens où que je sois en accord moi avec ce que je vais donner comme image, mais il faut quand même que ce soit suffisamment choquant pour que le spectateur comprenne ce qu'elle vit.
Donc là, il faut abîmer l'image de Sophie Parlier sans abîmer l'image de Julie de Bonnard.
Du moins de respecter ce que moi je ne suis pas
prête à donner.
Voilà, et donc Didier a été super et on a eu une grande discussion juste avant le tournage pour ça, parce que c'est vrai que je prenais conscience de ce que ça allait être comme film. Et moi, comment j'allais me positionner? Et Didier m'a dit OK.
Il y a un beau casting autour, hein. On retiendra les avocats. Je vais par Natalia Dantcheva, par Sami Garbi, évidemment, qui a changé sa casquette du capitaine Saïd pour la robe d'avocat. Édouard Montout, Romane Libert, la petite qui joue Lucie Bauer dans Plus belle la vie, qu'on retrouve justement dans ce téléfilm. Elle est magnifique, la petite qui joue Manon aussi. Et puis Julien de Saint-Jean aussi. Enfin, vraiment, voilà, il y a un super casting vraiment autour. C'est un film qu'on a envie de défendre et que moi je vous conseille. Et puis peut-être que voilà, ça amènera la réflexion, que ça soit dans le couple ou voilà, avant de. Parce qu'il faut imaginer que ce genre de choses, ça n'arrive jamais quand tout va bien dans le couple.
L'utilité de ce film, c'est que les gens prennent conscience du désastre, de ce que ça peut dévaster la vie de quelqu'un, et donc au moins d'en avoir conscience. En plus, si c'est diffusé à la télé, c'est un peu pour aller dans les foyers des gens et pour que les gens le ressentent et qu'ils se comportent différemment. Enfin, voilà. Et puis surtout pour les ados aussi, les protéger de tout ça. Là, c'est une femme à qui ça arrive, de bonne famille avec des enfants et tout ça, mais ceux qui sont vraiment en danger de ça, c'est les ados.
Pour rendre hommage à France Télévisions, parce que c'est des films qui sont durs à faire, c'est des films un peu punk quand même, parce qu'il faut assumer de faire un sujet comme ça en prime time. Et c'est vrai que Anne Holmes et Anne Didier, quand on a proposé le projet, à aucun moment elles nous ont réfrénés, au contraire, elles nous ont toujours poussé pour aller vraiment à la limite avec de l'acceptable, pour qu'on se rende compte, comme disaient Didier et Julie, de la puissance que ça peut. Vraiment la déflagration que ça peut avoir dans la vie d'une femme, et c'est vrai, vous verrez, on a aussi fait un doc dessus, donc on s'est beaucoup renseigné sur le sujet. Ça touche tous les types de sexualité, tous les âges, toutes les générations. C'est évidemment chez les jeunes, parce que les millénials sont l'habitude de vivre avec leurs réseaux sociaux tout le temps, mais ça touche des femmes des trentenaires, des quarantenaires, ça touche des femmes, ça touche des hommes, ça touche des homos, ça touche des hétéros. C'est vraiment très concernant, ça touche tout le monde. Il faut pas avoir l'impression que c'est uniquement vers ceux qui pourraient penser que seuls quelques-uns font des images avec leur téléphone. Tout le monde a un moment à un autre pour arriver à faire ça. Oui.
Les gens peuvent se faire chanter à cause de ça. Enfin, ça peut être vraiment très violent, quoi.
C'est dévastateur. Et d'ailleurs, le documentaire sera diffusé à la suite, hein, du téléfilm Mise à nu, sera diffusé à la suite en deuxième partie de soirée. Merci infiniment d'être venu nous en parler. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci Alain.
Merci. Merci beaucoup.
Oh, c'est super que tu sois venu. Viens, rentre.
Non, j'ai mon taxi qui m'attend là. J'ai juste fait un petit détour parce qu'il fallait que je te parle.
Ok.
Je sais pas ce qui t'arrive là, mais franchement, le truc que j'ai reçu, c'est... Je vais être français choquant, quoi.
Attends, de quoi tu parles?
Le truc sur ta page, là, la vidéo.
Mais quelle vidéo?
Mais tu sais bien, là, ça, là.
Oh, attends, c'est quoi, ça?
Bah, c'est toi.
Et dans un instant, le réalisateur Olivier Casas lance un appel au casting. Alors surtout, bougez pas. À tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
On voudrait qu'elle se démêle, les histoires qui nous rappellent nos mains qui se tenaient sous la lune. Des lendemains pleins les poches et les photos qu'on décroche, peut-être un peu trop tôt quand on y pense. Restez dans vos tiroirs, vilaines ronces de ma mémoire. Je préfère aller voir ailleurs si j'y suis. Il y a des ondes qui m'appellent et me happent. Dis-moi quoi faire de nous et fais-moi penser à t'oublier avant que tu ne reviennes. Je voudrais t'oublier pour t'oublier. t'aimer. T'oublier, ça c'est même pas la peine. Dans les flaques où tu sautes, il y a les reflets d'une autre histoire. Même si toi tu dis que c'est pas la même. Et nos châteaux disparaissent à la première averse. Peut-être un peu trop vite quand on y pense. Ils dansent dans mon sommeil, les vieux fantômes qui m'appellent. Mais je préfère aller voir ailleurs si j'y suis. Il y a des ondes qui m'appellent et me happent. Dis-moi quoi faire de nous. Et fais-moi penser à t'oublier. Avant que tu ne reviennes, voudrais t'oublier pour t'oublier. Mais t'oublier, ça c'est même pas la peine. T'oublier, t'oublier, t'oublier. Avant que tu ne reviennes, voudrais t'oublier pour t'oublier. Mais t'oublier. Mille fois on les a tentés, viser les adieux légers. En apparence tranquille, ceux-là même qui n'ont l'air de rien. Mille fois on a raté la cible. Sûr que c'est plus facile d'imaginer qu'on a encore du chemin. Mille fois échoué sur le rivage. Toi et moi on ne s'aime qu'après l'orage. Alors cette fois ce sera sans toi. Fais-moi penser à t'oublier. T'oublier, t'oublier. Avant que tu ne reviennes, je voudrais t'oublier pour t'oublier. Mais t'oublier, ça c'est même pas la peine. T'oublier, t'oublier, t'oublier. Avant que tu ne reviennes, je voudrais t'oublier pour t'oublier.
La télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Et pour terminer cette émission, on va parler d'un très beau projet, celui qu'on avait rencontré dans le cadre de la sortie du film Babyphone. Il s'appelle Olivier Casas, réalisateur, qui est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Alors, on est avec toi pour un projet particulier, puisque tu prépares ton prochain film qui va s'appeler Les Enfants de la Forêt, qui raconte une histoire en plus qui s'est passée dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine, et notamment du côté de la Charente-Maritime, où après la guerre, deux enfants sont restés pendant 7 ans dans une forêt. Incroyable ça.
Exactement. En fait, c'est l'histoire de deux frères qui, à la fin de la guerre, à l'été 48, ont été mis dans un camp de vacances par leur mère, famille parisienne, assez aisée. À la fin de l'été, elle n'est pas venue les chercher. Elle les a laissés là-bas. Donc le couple qui tenait cette colonie de vacances, cette pension, les a gardés pendant quelques mois. Et suite à un drame qui a eu lieu sur place, dont le film parlera, ces deux frères se sont enfuis en forêt et ont grandi pendant 7 ans comme des enfants sauvages.
Et un des deux frères aujourd'hui est toujours en vie. D'ailleurs, il a pu témoigner, a pu discuter, échanger avec toi, puisque tu veux justement que ton prochain film soit inspiré de leur histoire.
Exactement. Donc le film aujourd'hui s'appelle Les Enfants de la Forêt, et à partir des récits de Michel, donc le qui était le petit frère à l'époque, qui aujourd'hui est un grand garçon de 77 ans, j'ai pu reconstituer toute l'histoire de ces deux frères en forêt. Et le film raconte en permanence l'histoire des deux frères à la cinquantaine, avec l'écho de ce qu'ils ont vécu enfant en forêt. Et une fois adultes, les personnages seront incarnés par Yvan Attal et Mathieu Kassovitz.
Alors justement, là aujourd'hui, le but de la démarche est de t'entendre aujourd'hui lancer un appel dans toute la Nouvelle-Aquitaine. C'est que tu recherches deux enfants qui vont jouer les rôles enfants de Mathieu Kassovitz et de Yvan Attal. Et que tu recherches ces deux enfants par l'intermédiaire d'un casting. Est-ce que tu peux nous dire justement comment on peut postuler? Raconte-nous tout un peu là-dessus.
Alors, écoute, on cherche très activement des enfants entre 5 et 12 ans qui soient bruns, avec les yeux foncés, donc noirs ou marrons, qui soient des enfants, donc des petits garçons, qui soient des enfants débrouillards, avec un certain goût des jeux en extérieur, de l'aventure, voilà, une envie de d'incarner ces deux petits enfants qui ont grandi dans la forêt. Donc ça veut dire quand même une certaine agilité, un goût pour les jeux en extérieur. Donc des enfants de 5 à 12 ans, pas forcément acteurs. C'est même, moi, personnellement, je préfère même qu'ils n'aient jamais joué dans un
joué,
film.
Ouais.
Ouais. Vu la caractérisation des personnages et le fait qu'on va vraiment avoir des enfants qui vont grandir dans leur relation ensemble, c'est encore plus intéressant s'ils ont pas été acteurs. Donc vraiment, je dis à tes auditeurs, ne vous censurez pas, aux parents. Vraiment, si votre enfant n'a jamais joué dans un film, ça peut être l'occasion. Donc, entre les enfants entre 5 et 12 ans, il faut nous envoyer 2 ou 3 photos avec le nom et le prénom de l'enfant, sa date de naissance, sa taille et les coordonnées des parents à l'adresse suivante, lesenfantsaquitaine@gmail.com. Donc, vous aurez tout ça à l'adresse suivante, lesenfantsaquitaine@gmail.com.
Alors, lesenfantsaquitaine@gmail.com, les enfants avec un S? Bien sûr.
Les enfants avec MS et Aquitaine tout attaché. @gmail.com, voilà. Et vous serez contacté par Valérie Espagne, qui est spécialiste, donc, qui est du casting enfant, qui a fait plein de films pour le cinéma ces dernières années. Et on va étudier évidemment toutes les candidatures et on va venir en Charente pour rencontrer vos enfants et leur faire passer les essais. Et voilà, ça va être une chouette aventure pour eux aussi. Il faut que les enfants, évidemment, en aient envie. C'est la chose la plus importante. Si vous avez des garçons entre 5 et 12 ans qui sont un peu agiles et qui aiment bien faire des jeux en extérieur et construire des cabanes ou monter aux arbres, n'hésitez pas.
Et ben voilà, le message est passé. En tout cas, Olivier, lesenfantsaquitaine@gmail.com pour faire postuler vos enfants. Alors, la cerise sur le gâteau, hein, tu recherches partout, éventuellement en France, mais toi, ce que tu aimerais par-dessus tout, pour boucler la boucle, c'est que ces deux enfants soient originaires des Charentes, hein, notamment, hein, puisque cette histoire s'est passée ici, en Charente-Maritime.
Oui, bah, l'histoire s'est passée ici. Moi, je suis originaire de Bordeaux. J'ai grandi là-bas, donc je suis très attaché à l'Aquitaine. On va très certainement tourner en Aquitaine. C'est un de mes objectifs. Après, c'est aussi les décors qui vont m'aider à décider. Mais il se passe notamment des choses dans les parcs à huîtres dans le film. Donc, on est quand même, voilà, petit à petit, on se rapproche quand même de plus en plus de la région. Donc, il y a de grandes chances qu'on soit pas très loin. Et oui, là, ce serait un joli clin d'œil à l'histoire de trouver des enfants de la région pour incarner Mathieu Kassovitz et Yvan Attal à l'écran dans cette histoire, c'est sûr.
Merci à toi, Olivier, d'avoir lancé cet appel sur notre antenne. On va suivre le projet de très très près avec toi. N'hésite pas à revenir vers nous quand tu as besoin là-dessus, évidemment. On va suivre très très activement voilà, le tournage et puis tout ce qui va se passer derrière en espérant voilà, pouvoir t'aider dans ce projet. On rappelle lesenfantsaquitaine@gmail.com pour faire postuler vos enfants s'ils ont entre 5 et 12 ans, 2 garçons donc recherchés activement pour ce film. Merci à toi, Olivier.
Merci, à bientôt.
Et à très vite.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on recevra encore du beau monde. Julien Bugier sera notre invité d'honneur pour parler du dispositif, notamment de France Télévisions, pour ces élections présidentielles qui nous attendent. Guillaume Labbé sera également notre invité pour nous reparler de Parallèle. C'est l'un des héros de la série. Christophe de Chavannes sera également notre invité exceptionnel à l'occasion de la sortie sur Disney+, également du nouvel opus de L'Âge de Glace, mais aussi de sa participation au Capitaine Marlowe. Bref, encore de bien belles choses vous attendent lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 5h35, 10h30 et 12h20 sur Radio Dune. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application Chute on écoute la télé pour iPhone et Android et nos pages Facebook et Instagram vous attendent également. Et puis je vous retrouve bien sûr lundi prochain dès 16h pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Radio Dune et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute, on écoute la télé avec les piscines Pascal Delcroix, votre concessionnaire Everblue sur le bassin d'Arcachon. Construction, rénovation, entretien, terrasse, produits piscine. Retrouvez-nous 27 rue Denis Papin à Andernos ou sur delcroix-paysagiste.fr.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center de Biganos et la teste de bûche. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute, des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille sur le bassin d'Arcachon, 23 route des Lacs à Biganos et 401 avenue Vulcain à la teste. Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Gironde sur mariemorin.fr.